basée sur le côté pré-réflexif du sensible, opposée à la perspective culturelle qui se rapporte toujours au symbolique du monde, et on voit avec ça une notion plutôt, une démarche intellectualiste, donc il y a une contradiction. Et pour moi, la tâche maintenant, aussi peut-être pour ce colloque, dans la partie culture, c'est de trouver un lien conceptuel entre culture et ambiance. Parce que sinon, je dis que ça ne donne pas de sens de parler de culture et d'ambiance à la fois. Ce que je propose ici, c'est la notion d'ambiance de résonance culturelle qui devrait peut-être essayer de créer ce lien. Et c'est une catégorie d'ambiance que je présente ici en bref, qui est créée par la coprésence de personnes. Donc, c'est une certaine catégorie, une coprésence de personnes de la même appartenance, je dirais, culturelle. Et cette ambiance de résonance culturelle crée des lieux d'intimité publique, donc quelque chose d'un peu paradoxal, parce que normalement le public n'est pas trop lié avec la notion d'intimité. Peut-être qu'il faut dire à ce moment que je dois un bon. Je dois beaucoup à cette présentation un collègue sociologue anglais, Dean Svedda, que j'avais invité quelquefois, où il a présenté un papier où il a justement développé la notion intimité publique et la notion de résonance, mais je l'ai repris un petit peu d'une manière différente. Pour illustrer cette notion de lieu d'intimité, je fais référence à son travail. Il a fait un projet de recherche sur les enclaves urbaines. Il a recherché sur le Gay Village à Manchester et sur une mall dans la banlieue de Vancouver, Richmond. Et il a trouvé qu'à certains moments, le Gay Village à Manchester et la mall peut être caractérisé par en interviewant les gens, par une situation d'un sentiment de confiance, de familiarité des personnes qui disent il y a certaines situations, mais il y a certains moments où je peux m'exprimer moi-même, où je peux être moi-même dans l'espace. Ça, c'est un petit peu le caractéristique d'une ambiance intime, donc un sentiment de confiance, de familiarité qui se crée en espace public avec la possibilité de pouvoir s'exprimer eux-mêmes, même si ça reste un espace public. Ma présentation est plutôt dans la première partie d'essayer de savoir comment se crée les lieux d'intimité, plutôt qu'est-ce que c'est conceptuellement une ambiance de résonance culturelle. Je me base ici sur une perspective de culture, comme culture, comme des contextes comportementaux divers qui peuvent avoir. Des contextes comportementaux divers qui peuvent varier selon les moments différents, selon les lieux différents aussi, selon les groupes différents, et qui sont basés bien sûr sur des ordres symboliques. Mais ce qui permet pour moi de faire le lien avec cette idée de résonance et intimité, c'est pas la grande tradition textualiste ou discursive de la notion de culture, sinon plutôt ce qui est né récemment, c'est le practicum, donc c'est la pratique. C'est l'idée aussi que chaque, disons, ordre symbolique s'écrit aussi dans une certaine corporealité chez des personnes qui participent ou qui appartiennent à une certaine. Groupe de comportement. Ça peut s'exprimer par coiffure, vêtements, accessoires, mais bien sûr aussi par des gestes, de langage, par des actes de corporalité, par toutes formes différentes. Et avec ça, la culture, elle a aussi une performance, elle peut être dans les pratiques, performance, elle est montrée. Ça peut dire de ce côté cette notion de culture, c'est évoluer de recherche culturelle sur laquelle je me base. Si on regarde la notion classique de l'espace public, cette idée de performance, de l'appartenance, des identités culturelles publiques, elle est pratiquement situation de coprésence, ça fonctionne apparemment autrement parce qu'il y a une coprésence significative des personnes avec la même appartenance que Dieu-même, et cela crée d'un coup un sentiment de confiance et d'intimité, selon cette observation du Veda, selon cette recherche, et ça crée des lieux d'intimité publique. Et la question est donc comment il est possible, à la base des formes d'expression corporelle publique, que se peut se créer un ressenti, un sentiment de confiance, d'intimité en public. Et je fais ici référence à une anthropologiste norvégienne, Unni Wikan, qui a, selon ma connaissance, primaire utilisé la notion de résonance. Elle a, dans un papier, dans un article sur la communication dans la société balinaise, elle décrit une forme de communication qui est caractérisée par une présence simultanée de sentiments et de pensées dans la communication. Elle appelle cette forme de communication « feeling front » pour dire que ce n'est pas seulement l'échange de symboles, il y a aussi une sorte de voilà, feeling des émotivités dedans. Et elle souligne la qualité de cette forme d'interaction qui va béante de l'ordre, au-delà des mots, parce qu'il y a une autre compréhension possible entre les interlocuteurs que par les plus possibles seulement, que réalisés par les simples mots. Et pourquoi est-ce que cela est possible? Donc, dans la société balinaise, elle a dit que la base de ça, c'est une expérience humaine partagée qui est le fondement de cette forme de communication. Et si on adapte ça pour la sensibilité, ou si on prend cette notion et la utilise pour comprendre la sensibilité, on peut aussi dire que ça nous permet de penser le sensible au-delà de la dichotomie entre sensation-perception ou entre ambiance et signe, qui était justement un petit peu à la base aussi du développement de la recherche des ambiances, qui a mis l'accent sur les sensations, sur le fait de réfléchir. Ce qui est intéressant dernièrement aussi, le chercheur en littérature allemand qui travaille aux États-Unis, Andrew Louis Grundrecht, a développé une notion similaire pour la perception esthétique en utilisant le mot épiphanie, le mot grec épiphanie. Il décrit aussi une forme d'expérience esthétique où il y a une oscillation qu'il appelle très vite entre les effets de présence, peut-être les effets d'ambiance, et les significations. Donc, c'est une proposition un peu née indépendamment, mais qui est un petit peu cette même idée comme le feeling thought de l'économique. La question suivante de ma présentation est de se demander comment venir de la résonance à la résonance culturelle. Je reviens à cette idée de situation publique anonyme. Elle est pensée d'une manière qui est une attitude blasée par rapport aux autres, cette demande des yeux, et peut-être à la limite, comme je disais avant, une reconnaissance des catégories d'autres. On peut dire que c'est quelqu'un d'une certaine catégorie sociale, une certaine catégorie professionnelle. Dans la situation de coprésence, il s'est créé une autre forme de socialité qui est basée d'abord sur la reconnaissance d'autres en tant que d'autres similaires avec lesquels on a des expériences communes. Dans cette situation, on voit par exemple dans le cas des homosexuels, on a les mêmes expériences homosexuelles sur lesquelles on peut s'appuyer. Et cela change l'attitude, donc c'est plus l'attitude blasée, sinon c'est une attitude plutôt empathique, mutuelle par rapport aux autres, qui s'installe et qui crée cette nouvelle situation d'ambiance de résonance culturelle et de création des lieux d'intimité publique. C'est peut-être une forme, comme disait hier Jean-François Guillard, d'un sympathie. Ce n'est pas seulement peut-être une empathie, c'est aussi une situation de sens de sympathie. Et elle est renforcée par l'expression insoucieuse de sa propre appartenance culturelle ou identité culturelle qui se passe peut-être pas de la même manière dans l'espace public anonyme qui est souvent le modèle de référence. Mais là aussi, prononcé annoncé dans ses travaux que c'est une situation très très fragile et il a écrit aussi sur des traits différents, avant tout parce qu'il a recherché seulement dans des espaces publics classiques, bon, presque classiques, donc le monde, c'est accès à tout. Et aussi le Gay Village of Manchester, c'est vraiment une rue dans la Cannon Street, dans la rue de Manchester. Donc je crois qu'on peut aussi essayer de localiser cette sorte d'ambiance, cette forme d'ambiance dans les lieux publics, mais fermés, comme des bars, comme des, peut-être aussi des manifestations temporaires, comme des late nights, où c'est beaucoup plus facile d'exclure des autres pas similaires. C'est très très difficile dans un espace classiquement public comme une rue de la ville de Manchester. L'opposition de cette idée d'ambiance de résonance culturelle ou de lieu d'intimité publique est complètement à l'opposé de la conception classique de l'espace public. Donc pour moi, la question suivante que je veux suivre est, est-ce qu'il s'agit seulement d'une forme ou d'un résultat en tant que maintenance que je suis tombé sur les lieux d'intimité publique, c'est le résultat d'une évolution de sensibilité théorique, ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'une nouvelle forme de socialité qui est peut-être propice ou qui est plus répandue dans nos sociétés contemporaines. Et je fais ici référence au travail de Michel Maffesoli qui nous aide peut-être à trouver une réponse sur ça. Michel Maffesoli, je décris son trait très bref parce que je n'ai pas encore compris tout son travail, mais seulement la partie qui me paraît ici très intéressante de donner une réponse, qui dit que les sociétés postmodernes, on parle des sociétés postmodernes, caractérisé par l'existence des phénomènes de massification et de communautarisation. J'espère que c'est le bon mot. Et il appelle ces côtés sur lesquels je veux focaliser mon intérêt, ces communautés, il les appelle néo-tribus. Et ces néo-tribus sont, par rapport aux tribus classiques, ce sont des communautés changeantes qui se cristallisent dans les endroits concrets de consommation. Donc ils mettent très en valeur les endroits de consommation, de loisirs, l'excès parfois comme élément très très important de sociabilité dans une société contemporaine. Et il met l'accent aussi sur l'orgiastique et le sentiment naissant du vécu en commun. C'est justement la même expérience que j'ai décrit dans les lieux d'intimité publique, qu'il décrit pour moi avec les autres mots. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait, c'est que c'est néo-tribu. Un rôle essentiel pour la cohésion de la société postmoderne. Donc, si on suit cette argumentation, on peut dire qu'aussi les espaces d'intimité publique ne sont pas seulement un phénomène éphémère, sinon aussi de première importance pour la compréhension de la cohésion de notre société, je dirais plutôt post-industrielle, parce que postmoderne, c'est un concept beaucoup plus large sur lequel je ne suis pas ici. Bien sûr, cette idée est beaucoup critiquée, cette idée de Michel Maffesoli, et je m'appuie sur un sociologue allemand qui à la fois appuie cette idée et la met en question, le sociologue Gerhard Schulze, qui a fait une analyse socioculturelle de la société contemporaine, l'Allemagne, et il a aussi mis en avant l'idée que les expériences partagées sont un aspect majeur de la structuration de la société contemporaine. Mais en même temps, il montre aussi qu'il y a des différents milieux qui se cristallisent autour des expériences partagées, mais en même temps, il montre aussi qu'il y a certains milieux qui ont très peu d'affinité avec les communautarisations, qui sont très retirés. Donc ça serait une critique forte que Michel Maffesoli va peut-être un peu trop loin pour dire que les néo-tribus sont vraiment la forme de cohésion sociale pour la société. Après cette relation, cette question aussi de relation des ambiances ou lieux d'intimité publique avec part sur la vie créative, qui est très très important dans la recherche sur le long terme, et l'autre sur les avions de shopping. Aussi, selon une idée, si on met le débat sur la vie créative, c'est-à-dire avant tout commencer par lancer par des chats longs, et entre autres, il a commencé l'idée que la culture urbaine, il appelle ça street level culture, est considérée comme un facteur important d'attraction de la classe créative. Mais Florida ne précise pas le rapport entre street level culture et créativité. Il laisse ça très très ouvert et il commence. Il y a un autre collègue géographe, Israël, qui a fait des recherches plus focalisées sur les implantations des entreprises de services créatifs. Il a pu montrer que le look and feel est le facteur primordial de l'implantation des entreprises de services créatifs. Donc, le look and feel, ça on peut le traduire comme ambiance, est un facteur important pour la productivité de ces entreprises. Mais dans les deux études, il manque une précision du rapport entre l'ambiance et la créativité. C'est seulement décrit, mais ça n'est pas décrit comment ça pourrait fonctionner. Moi, je veux juste vraiment vous parler d'un projet de recherche sur l'esthétique ordinaire de l'urbain, où je m'étais aussi posé la question de la perception esthétique ordinaire des employés créatifs. Et j'ai trouvé une première exposition. Une première explication qui a montré qu'il y a certaines personnes qui utilisent les ambiances de l'enseignement culturel comme le mood management ou le management de la Chimon et cherchent systématiquement, ils visitent systématiquement des bars qui, selon eux, sont visités par des autres personnes autonomes et créatives qui visent pour avoir une stimulation de leur Chimon et après pouvoir amener cette Chimon un peu stimulée à leur endroit de travail et se sentir ainsi plus dans de meilleures capacités de résoudre leurs problèmes créatifs. Deuxième exemple où ça peut entrer dans les pratiques, c'est les environs du shopping et une recherche que j'avais faite qui est basée aussi sur mon idée que le shopping est une pratique. Et un des résultats est que je pouvais distinguer trois formes dans lesquelles les ambiances sont prises en considération pour le choix du shopping. Il y a une ambiance de fouille qui est prise en considération, une ambiance de flânerie et aussi une ambiance de résonance culturelle. En bref, elle fonctionne comme ça, c'est une ambiance de résonance qui crée chez les personnes un sentiment de familiarité et d'intimité qui est transmis par l'agencement, par la musique, par les autres clients et par les vendeurs. Et les personnes ont décrit qu'ils choisissent ces endroits, ils ont bien décrit l'environnement parce que le shopping pour eux, dans cette situation, s'il y a cette ambiance de résonance, c'est plus facile. Et c'est encore plus clair quand on voit les ambiances de dissonance culturelle qui sont ici décrites. Faire des achats, normalement, c'est une activité commerciale, l'échange très normalisé, on échange un bien contre l'argent. Mais les personnes parlent des situations, il y a des situations d'incompréhension avec les vendeurs qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent, il y a des difficultés, même s'il s'agit que d'acheter des chaussures qui sont présentes et ça devrait être normalement une activité très très facile. Et donc c'est aussi ce sentiment d'incompréhension, donc il n'y a pas cette résonance, il n'y a pas cette intimité qui se crée dans l'intimité de l'achat, du shopping, qui est avant tout transmis par les vendeurs et ils font une ou deux fois cette expérience et après ils vont plus dans ce magasin, même peut-être qu'ils ont un choix de chaussures ou de vêtements qui leur conviendraient. Alors pour conclure, j'espère que j'ai pu, avec mon français un peu, peut-être pas toujours très précis, montrer que les ambiances de résonance culturelle sont quand même une proposition viable pour associer les deux concepts de registres très différents, donc ambiance avec celui de la culture. Et si on fait une référence à Michel Maffesoli, on peut vraiment croire que ce n'est pas seulement un phénomène qui émergeait dans les relations sociétés, sinon qui aussi qui a aussi une certaine importance pour la compréhension de notre société contemporaine, donc il vaut peut-être la peine d'approfondir la recherche sur ce cette catégorie d'ambiance. Mais en même temps, il faut dire aussi qu'ils ont aussi encore plus encourageant, parce qu'il y a un manque d'études empiriques. Michel Maffesoli, sûrement vous le savez plus que moi, il n'y a pas vraiment une base profonde empirique. Donc je crois avant tout le travail que j'ai connu au Cresson est une tradition de recherche sur les ambiances qui peut être très apte à être adaptée aussi sur la recherche des ambiances de résonance culturelle en combinaison de travail conceptuel, méthodique et empirique qui n'est pas encore réalisé. Et je crois que pour la recherche sur les ambiances, cette proposition permet peut-être d'ouvrir la recherche sur une analyse culturelle, société et faire un lien plus large